Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons tous encore en mémoire les paroles de l'ange au berger que nous avons entendues dans l'évangile de la messe de minuit. « Je vous annonce une grande joie pour vous et pour tout le peuple. Aujourd'hui, un Sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. » Et vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de linge et couché dans une crèche. Aujourd'hui, l'Évangile nous dit par la bouche du vieillard Siméon, qui porte cet enfant dans ses bras, « Voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et il sera un signe de contradiction. » Il y a de quoi nous étonner, comme saint Grégoire de Nice. Mais quoi, dit-il, tout à l'heure, il annonçait le salut apporté à tous, et voici que maintenant, il parle de ruine et de résurrection. Nous verrons d'abord, si vous voulez bien, que Jésus-Christ est établi pour la ruine et la résurrection, premièrement des individus, deuxièmement des sociétés, et qu'il sera jusqu'à son retour dans la gloire, de la gloire, un signe de contradiction. Premièrement, Jésus-Christ est établi pour la ruine et la résurrection des individus. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Cet enfant, comme nous l'avons chanté à la messe du jour, est né pour tous, il est donné à tous. Puer natus est nobis et filius natus est nobis. Oui, le salut, dit saint Grégoire de Nice, est présenté à tous les peuples. S'il y a ruine et résurrection pour beaucoup, cela dépend de leur volonté. Le dessein de Dieu, c'est le salut et la déification de tous. Le Sauveur est toujours le Sauveur. Mais pour ceux qui le rejettent, il est cause de ruine. Le prophète Isaïe l'avait prédit, il sera une pierre d'achoppement. En effet, l'avènement du Messie implique nécessairement une crise, une séparation. Les uns reçoivent volontiers la lumière, d'autres, comme dit saint Jean, préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises, et ils sont condamnés par leur propre conduite. La manifestation du Sauveur a pour but direct la résurrection et le salut. S'il y a chute et ruine, c'est uniquement parce que certains hommes refusent la lumière apportée par le Sauveur. Cet enfant est donné aux hommes pour leur résurrection. Le mot de résurrection ici n'a pas le sens de résurrection des morts. Il s'agit de la conversion, du passage de la mort morale produite par le péché à la grâce, à la vie de la grâce. À ceux qui reçoivent cet enfant, nous dit saint Jean, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et saint Paul explique dans les épîtres de celle de la messe de l'aurore et celle de la messe d'aujourd'hui ce que cela veut dire. Il nous a sauvés par le bain de la régénération, c'est-à-dire le baptême, où l'Esprit Saint nous renouvelle, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous sommes de nouveau en amitié avec Dieu, nous devenions des fils adoptifs, héritiers en espérance de la vie éternelle. Notons bien l'expression « héritiers en espérance ». C'est-à-dire que la séparation opérée par cet enfant qui nous est donné ne s'effectue pas en une seule fois. Il y a deux camps, effectivement. D'un côté, ceux qui reçoivent le Sauveur, et de l'autre, ceux qui le rejettent. Mais le passage entre les deux camps est fréquent. Il y a des conversions et il y a des reniements. Il y a aussi dans ceux qui veulent rester dans le camp du Christ, ceux qui, par leur péché, font le jeu de l'ennemi, chef du camp adverse. Chez tous ceux qui reçoivent le Sauveur, doit s'opérer tout au long de leur vie un travail de destruction, c'est-à-dire de ruine, et une résurrection, une conversion. Tout d'abord, un travail de destruction, de ruine. De ruine de quoi ? Eh bien, de ruine du vieil homme, parce que le vieil homme en nous doit mourir. Ruine, supprimer toute attache au péché, aux mauvaises tendances, aux défauts. Ensuite, résurrection de l'homme nouveau. Cette grâce qui était déposée par le baptême, eh bien, doit croître. Donc, toute notre vie, on doit croître en vertu, en bonnes œuvres. Notre fidélité à Dieu doit être de plus en plus grande, jusqu'à l'heure de notre mort. Pour effectuer ce travail de sanctification, le Sauveur a créé l'Église, qui, comme une mère, a tout ce qu'il faut pour donner la vie surnaturelle à ses enfants et les conduire au royaume des cieux. Il y a les sacrements, il y a les pasteurs, il y a l'enseignement. Deuxièmement, Jésus-Christ est établi pour la ruine et la résurrection des sociétés. Avant l'avenue du Sauveur, les hommes étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. L'organisation sociale et politique et religieuse des peuples en subissait les conséquences. Les différentes sociétés païennes pratiquaient l'esclavage, les sacrifices humains, les lois étaient dures. Rappelons-nous qu'au XVIe siècle, au Mexique, avant l'arrivée des Espagnols, les peuples de cet immense continent ne connaissaient pas encore le christianisme. La société aztèque offrait chaque année en sacrifice aux idoles en moyenne 50 000 jeunes hommes. On les immolait sur des autels installés en haut des pyramides et le sang coulait le long des marches. Chez les Romains, le père de famille avait droit de vie et de mort sur ses propres enfants. Il pouvait éliminer qui il voulait. Les esclaves étaient considérés comme une marchandise. On pouvait les vendre, on pouvait les tuer. On pourrait multiplier les exemples avec des descriptions toutes plus horribles les unes que les autres. Après l'avenue du Sauveur, s'est construite la civilisation chrétienne au prix de millions de martyrs. Les principes du christianisme ont changé d'abord les cœurs, puis, peu à peu, la société tout entière. Les sacrifices humains ont disparu, l'esclavage a été supprimé, les lois se sont tempérées de miséricorde, des œuvres nouvelles ont été créées pour secourir toutes les misères humaines. Il a fallu plus de 1000 ans pour construire cette civilisation. Pendant ces 1000 ans, les hommes de bonne volonté se sont appuyés sur le Christ et son Église. Ils ont accompli un double travail. Un travail de ruine des mœurs païennes et des principes qui régissaient leurs lois. Un travail de résurrection en opérant dans la société une conversion morale semblable à celle qui s'opérait dans les individus. Mais voilà, les hommes, oublieux des bienfaits apportés par le Christ et son Église, ont voulu secouer le joug doux et le fardeau léger du Christ. Ils se sont tournés vers le séducteur. Celui-ci leur a fait miroiter la liberté et un avenir radieux où l'homme deviendrait Dieu, maître de sa propre destinée. C'était toute l'œuvre de la Révolution française. Les papes ont tout de suite vu clair, ils ont vu le caractère satanique de cette révolution. La révolution, disait Pie IX en 1849, est inspirée par Satan lui-même. Son but, est de détruire de fond en comble l'édifice du christianisme et de reconstruire sur ses ruines l'ordre social du paganisme. Et ces paroles du pape ont été confirmées par les documents de la société secrète, la Haute Vente, tombés entre les mains de la police romaine au XIXe siècle. Voici ce que disent ces documents. Notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française, l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne. Quel est leur plan d'attaque ? Corrompre systématiquement la jeunesse et le clergé. Et avec quelles armes ? La calomnie et le mensonge. Et ajoutons qu'une fois qu'on est maître de la presse, eh bien c'est très facile de propager ce que l'on veut. Le mensonge a donc marché. Il a trompé, il a séduit ceux qui travaillaient dans le camp du Christ même et qui rêvaient d'une démocratie chrétienne universelle ayant adopté les principes de 89. Saint Pie X a tout de suite vu le danger et dans la lettre sur le sillon, il rappellera les principes de la civilisation chrétienne. On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins. Contre qui ? Contre les attaques toujours renaissantes de la révolte et de l'impiété. Un siècle après Saint Pie X, nous avons toujours cette révolte constante et ces impiétés qui se montrent maintenant au grand jour. En 2014, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, disait ceci. L'école républicaine est une nouvelle église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Cette foi laïque sera le moteur qui consistera à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. C'est toujours le même objectif que les révolutionnaires de 89 et que les chefs de la Haute Vente un siècle plus tôt. Cette obstination dans les destructions du Christ et de son Église montre bien son caractère satanique. Les hommes vivent au plus 80-100 ans, ils passent, mais les idées, vous voyez, restent toujours. Et le combat est toujours le même. Le Concile Vatican II, lassé de lutter contre ses ennemis, a voulu faire la paix avec eux. Faire la paix avec les ennemis du Sauveur. Cet enfant qui nous a été donné à Noël a été pour le clergé issu de Vatican II la pierre d'achoppement contre laquelle avaient déjà buté en leur temps les autorités religieuses du Seigneur, qui vivaient au temps du Seigneur. Le texte de l'Évangile dit que cet enfant sera un signe de contradiction. Il l'a été dès sa naissance. Hérode a cherché à le tuer. Il le sera jusqu'au calvaire, où là, il sera effectivement mis à mort. Et il le sera jusqu'à la fin du monde, dans son Église. La raison donnée par l'Évangile, afin que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées. C'est pour cela que cet enfant est né, donné pour la ruine et la résurrection. Cela signifie qu'il n'est plus possible aux hommes qui le connaissent de rester neutres à son égard. On est désormais pour lui ou contre lui. Un petit exemple d'actualité. Cet enfant est né dans une crèche. Les crèches que l'on installe à Noël sont le rappel de sa venue en ce monde. Or, la loi civile actuelle interdit que l'on installe des crèches dans les lieux publics, tels que les mairies, par exemple. La République déclare ainsi officiellement qu'elle est contre Jésus-Christ. Quelles leçons tirer de tout cela ? Tant au plan individuel qu'au niveau politique et social, nous pouvons soit rechercher notre perfection par nous-mêmes, en dehors de Dieu et de ce Sauveur qui nous a été donné. C'est la révolte de la créature qui pêche en se détournant de Dieu, et il s'ensuit la ruine pour l'âme ou pour la société. Pour l'âme qui devient esclave du péché, si elle ne revient à Dieu, avant sa mort, elle ira en enfer. Pour la société, car on ne peut pas parler de civilisation païenne. Il n'y a qu'une civilisation, la civilisation chrétienne. Toutes les autres civilisations sont des esclavages. Le sort d'une telle société que nous prépare le mondialisme, apparemment, c'est des fausses lumières qui nous montrent quelque chose d'attirant, eh bien, sera pire que les sociétés païennes qui n'ont pas connu le Sauveur. Car, dit saint Grégoire de Nice, après l'incarnation, la ruine sera plus complète qu'avant, et le châtiment plus grave. La résistance aux enseignements du Sauveur et à une économie si miséricordieuse y conduit fatalement. Donc si on ne réagit pas, cette société qu'on est en train de nous construire, en ruinant les bases de la société chrétienne, sera une société pire que les sociétés païennes. L'esclavage y sera plus dur. Commençons donc par nous humilier. Le Verbe qui est Dieu s'est humilié en se faisant homme, puis en mourant sur la croix, pour faire de nous, ses créatures, des dieux, des frères du Fils de Dieu, pour que nous ayons part au bien éternel qui nous a préparés. Et nous, nous voudrions, créatures indigentes, nous passer de lui, ou de moins mener une vie selon notre propre volonté, en prenant dans le monde ce qui nous convient, etc., en ne rejetant pas totalement notre Seigneur, mais en composant avec le monde. Tant qu'on laisse prise aux démons par des attaches aux créatures, au péché, à nous-mêmes, on travaille contre le Sauveur. On donne du pouvoir aux ennemis déclarés de notre Seigneur. Il faut donc que nous nous sanctifions avec les secours exceptionnels que le bon Dieu nous a donnés, le rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. En nous sanctifiant, nous préparerons au niveau civil le triomphe de la Vierge Marie, qui, ne l'oublions pas, est terrible pour les ennemis de son Fils comme une armée rangée en bataille. Alors ce Fils qu'elle nous a donné à Noël, faisons comme le vieillard Siméon. Prenons-le non seulement dans nos bras, mais dans notre cœur, afin qu'il soit vraiment le fondement de toute notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.